Chers amis des cellules, bonjour, je vous souhaite une bonne et une sainte année 2020. Nous reprenons aujourd'hui nos enseignements après l'interruption des vacances et nous méditerons sur l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 3, l'évangile que nous entendrons dimanche prochain pour la fête du baptême du Christ. Avant de lire l'évangile, peut-être est-il bon de nous poser une petite question. La question est la suivante: le baptême que reçoit Jésus de Jean-Baptiste est-il le même baptême que nous avons reçu quand nous avons été baptisés dans l'Église? En fait, non. Le baptême que Jésus reçoit et dont on va parler, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême que nous recevons à l'Église, que les catéchumènes recevront dans la nuit de Pâques, est le baptême nouveau fondé par Jésus, baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Situons rapidement notre extrait dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il suit immédiatement la présentation du ministère de Jean-Baptiste et le baptême qu'il administre, et précédera le départ au désert de Jésus, ses 40 jours au désert, où il jeûnera et sera vainqueur du tentateur. Je vous lis l'Évangile. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Rappelons brièvement les caractéristiques du baptême de Jean-Baptiste. Premièrement, baptême, ça signifie « plonger dans l'eau ». Voilà, donc on va être plongé dans l'eau, c'est un terme de la vie courante, hein. Si vous faites votre vaisselle, vous baptisez en fait littéralement votre vaisselle dans la mesure où vous la plongez dans l'eau. Jean-Baptiste plongeait les gens dans l'eau après qu'ils avaient confessé leurs péchés, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissaient pécheurs devant Dieu et demandaient le pardon de Dieu, demandaient la miséricorde de Dieu. Jean-Baptiste n'était pas apte à leur donner cette miséricorde, mais il les aidait à faire cette démarche d'humilité et de demande de miséricorde devant Dieu. Notons deux éléments matériels significatifs. Jean-Baptiste se tenait au milieu du Jourdain, le Jourdain n'est pas un fleuve très profond, et les foules qui venaient le voir sortaient de la Judée pour aller dans le territoire païen juste en face, le territoire de la Pérée, et puis donc ils traversaient les uns après les autres le Jourdain jusqu'au milieu où se trouvait Jean-Baptiste, confessaient leurs péchés, étaient plongés dans l'eau, puis ressortaient et entraient en terre promise. C'est une chose que j'ai pu déjà évoquer avec vous, mais cela signifie que l'on a conscience que le péché est ce qui nous sépare de la terre promise. La terre promise, la terre où l'on vit avec Dieu, la terre de l'Alliance. On manifeste donc qu'on reconnaît que le péché est ce qui brise l'Alliance, ce qui nous sépare d'une vie de communion avec Dieu. Les clauses de l'Alliance avec Moïse le stipulaient, « Si Israël est fidèle à l'Alliance, alors Israël demeurera dans sa terre. Mais si Israël se prosterne devant d'autres dieux, si Israël oublie l'Alliance, alors Israël perdra la terre que le Seigneur lui a donnée. » Donc vous voyez, le fait de sortir de la terre manifestait que, même si matériellement on pouvait y être, on avait conscience que le péché nous séparait de la terre promise, c'est-à-dire dans le fond du fond, la vie en communion avec Dieu, partager la vie où Dieu est présent et proche de nous. Deuxième aspect matériel que je voudrais souligner, les gens qui confessaient donc à haute voix devant Jean-Baptiste leur péché étaient ensuite plongés par Jean-Baptiste dans l'eau. Et là, c'est une symbolique de mort et de purification. symbolique de mort parce qu'il y a à mourir au péché. On a cette conscience qu'il y a en nous une force, un attachement, une complicité avec le mal dont nous ne sommes pas capables de nous débarrasser nous-mêmes. Il faut brûler ces racines du péché en nous et seuls nous n'y arrivons pas. C'est pour ça que l'on est plongé dans les eaux du Jourdain. Vous savez, on ne se plonge pas soi-même, mais on est plongé par Jean-Baptiste. On a besoin de l'aide d'un autre. On se soumet aussi à l'intervention d'un autre. On quémande l'intervention d'un autre, essentiellement l'intervention de Dieu. Et puis on ne reste pas prisonnier de la mort, mais on ressort de ces eaux de la mort pour entrer dans la vie libérée du péché. Telle est la symbolique qui est annoncée, et en même temps, que Jean-Baptiste déclare très clairement qu'il n'accomplit pas. C'est un autre que lui, c'est le plus fort que lui, qui sera capable de réaliser ce que ce signe annonce déjà. Nous comprenons mieux maintenant l'étonnement de Jean le Baptiste lorsqu'il voit Jésus dans la foule demander à être plongé lui aussi comme les autres, comme tous les hommes pécheurs qui se succèdent dans les eaux par Jean le Baptiste. Et Jean le manifeste, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est toi qui baptises dans l'Esprit Saint et le feu, donc nous devrions inverser nos places. Et Jésus lui dit, laisse faire, pour le moment c'est ainsi que nous accomplissons toute justice. Alors Jean-Baptiste le laisse faire. Tâchons de comprendre maintenant pourquoi Jésus impose cela à Jean le Baptiste. La première chose, c'est que ça va permettre à Jésus d'être manifesté aux yeux de Jean-Baptiste pour le moins qu'il est bien le Messie attendu. En effet, lorsqu'il va sortir des eaux, on nous dit qu'il vit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et des cieux, on entend la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » À travers cet événement du baptême de Jean, Jésus est manifesté comme le Messie annoncé, celui qui est rempli de l'Esprit Saint, celui que le Père reconnaît jusque dans son humanité, comme le Fils bien-aimé, en qui il trouve sa joie, donc jusque dans l'humanité de Jésus. Je souligne ce point de l'humanité de Jésus parce que c'est là la grande nouveauté, que le Père trouve sa joie dans le Fils de toute éternité, c'est vrai. Mais là, il y a quelque chose de nouveau, c'est jusque dans l'humanité du Fils, il trouve sa joie. Dans l'humanité, Jésus est bien le Fils engendré du Père. Parce que ça, ce n'est pas justement naturel, c'est surnaturel. Donc, premier point, le baptême de Jean le Baptiste est l'occasion que Jésus soit manifesté comme le Messie annoncé. Deuxième point, Jésus prend à son compte la démarche de ceux qui confessent leurs péchés. Alors ça, c'est très étonnant parce que Jésus n'a pas de péché personnel. Jésus n'a commis aucun péché dont il devrait s'accuser. Alors, quel est le sens d'être plongé dans les eaux ? Eh bien, Jean-Baptiste désignera Jésus aussi ainsi, il est l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève les péchés du monde. Et donc, nous avons la manifestation symbolique, là, de ce que Jésus vient se charger des péchés du monde. Il est celui qui porte et enlève le péché du monde. Il est celui qui enlève le péché du monde parce qu'il vient porter les péchés des hommes pour les enlever. Lui qui est sans péché personnel se charge de nos propres péchés pour les porter et les enlever. Ainsi, parce qu'il porte et qu'il enlève les péchés du monde, lorsqu'il sort des eaux et qu'il entre en terre promise, il est celui qui fait vraiment entrer dans la terre promise, puisqu'il apporte réellement la libération du péché et la capacité à être fidèle à l'alliance avec Dieu. Le nom de Jésus prend alors toute sa résonance vétérotestamentaire, c'est-à-dire qu'il accomplit les figures de l'Ancien Testament. Jésus, dont vous savez que ça signifie « le Seigneur sauve », mais Jésus c'est aussi le même prénom que Josué. Alors, qui était Josué dans l'Ancien Testament? Josué, c'était l'un des proches collaborateurs de Moïse, et c'est celui qui, après la mort de Moïse, fait entrer le peuple dans la terre promise. C'est lui qui faisait passer au peuple le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et donc Jésus est aussi ce nouveau Josué, celui qui fait entrer le peuple dans la terre promise véritable, en portant et en enlevant son péché, en portant et en enlevant ce qui empêche le peuple de vivre fidèlement l'alliance avec Dieu. Ayant ainsi explicité la démarche de Jésus qui accepte le baptême de Jean-Baptiste, le fait d'être manifesté comme le Messie, et le fait de signifier qu'il porte et enlève les péchés du monde et fait entrer dans la vraie terre promise, je voudrais maintenant évoquer une conséquence de la démarche de Jésus pour notre propre démarche de miséricorde et de réconciliation avec nos frères. En effet, il arrive que nous ayons été offensés injustement par quelqu'un. Et parfois, au-delà de la blessure, nous avons ce désir de pardonner, d'offrir une chance à notre alliance, un avenir à notre relation avec l'autre. Nous avons ce désir, nous avons cette disposition, mais voilà que l'autre ne demande pas pardon. Alors il y a quelque chose qui semble inachevé dans notre démarche, parce que nous avons fait tout un bout du chemin, mais l'endurcissement de l'autre, l'absence de l'autre dans la demande de pardon, rend inachevé la réconciliation. On a un pardon, on pourrait dire, qu'on a pu accorder, mais une réconciliation qui est restée inachevée parce que l'autre n'a pas demandé pardon, alors qu'on était prêt à le lui donner. C'est quelque chose qui peut être très douloureux et qui peut aussi mettre en nous une sensation, un sentiment de gâchis. J'étais prêt, et ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'il n'a pas voulu demander pardon, il n'est pas venu demander pardon, il n'a pas saisi l'opportunité. Eh bien, dans ce cas, la démarche de Jésus est ce qui va permettre à notre effort de miséricorde et de réconciliation d'aboutir, de trouver sa fin, de trouver son interlocuteur. Comment cela ? Jésus, en venant dans la foule des pécheurs, il est indissociable de la foule des pécheurs, il n'y a rien qui le distingue matériellement des autres. En venant confesser ces péchés des hommes qu'il vient porter devant Jean-Baptiste, eh bien Jésus vient demander pardon pour ceux qui ne demandent pas encore pardon. Et une chose extrêmement importante à saisir, donc je disais précédemment, il y a des fois où nous trouvons que notre démarche de miséricorde ne peut pas aboutir parce que nous n'avons pas d'interlocuteur. En fait, Jésus se fait notre interlocuteur, on pourrait dire interlocuteur de substitution à ce moment-là, pour que nous ayons quelqu'un à qui donner, accorder notre pardon, remettre en ses mains le pardon que nous voulons accorder. Qu'il vient demander pardon au nom de ceux qui ne demandent pas encore pardon, Jésus permet deux choses. La première chose, il nous permet d'avoir un interlocuteur à qui accorder notre pardon, puisqu'il vient le demander, l'injustice est reconnue, elle est vue, elle n'est pas niée. Et d'autre part, il donne un sursis pour celui qui doit demander ce pardon. Il y a un sursis, il a encore un temps pour le faire. La démarche que nous avons vis-à-vis de la personne peut aboutir parce que nous avons un interlocuteur, mais il donne en même temps un peu de temps encore à celui qui aura à demander pardon jusqu'au bout pour pouvoir accomplir la démarche de son côté à lui. Mais celui qui était prêt à donner le pardon, désormais le peut, parce qu'il a le Christ comme interlocuteur qui est venu demander pardon pour ceux qui ne le faisaient pas encore. Retenons peut-être quatre points de l'enseignement de ce jour. Le premier, le baptême de Jean-Baptiste, n'est pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le sacrement de baptême que nous recevons. C'était une démarche de conversion qui préparait le peuple à la venue de celui qui pourrait effectivement donner le pardon de Dieu et faire entrer pleinement dans l'alliance, dans la terre promise avec Dieu. Deuxièmement, la démarche de Jésus, il accepte d'être baptisé par Jean le Baptiste, à la fois parce que ça va être l'occasion d'être manifesté comme le Messie attendu, l'Esprit Saint qui descend sur lui, la parole du Père, et également, c'est le troisième point, pour signifier qu'il porte et enlève les péchés du monde. Il sera donc ainsi le nouveau Josué, celui qui fait entrer dans la terre promise véritable, en nous dégageant de ce qui nous empêche de vivre l'Alliance, le péché, et donc de pouvoir vivre sur la terre avec Dieu. Quatrième point, la démarche de Jésus, en venant demander pardon au nom de ceux qui ne demandent pas encore pardon, permet à notre démarche, quand nous sommes prêts à accorder ce pardon, qu'elle aboutisse, parce que Jésus se fait notre interlocuteur, il prend la place de celui qui demande pardon, et il accorde un temps, un sursis à celui qui devrait demander pardon et qui ne le fait pas encore. Je vous remercie et je vous souhaite de bons échanges.